Portrait de femme de notre matrimoine par et avec Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires, c'est tout de suite. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous.
Et bonne fête.
Merci beaucoup. Bonne fête à toutes les Jacquelines, on en connaît quelques-unes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de George Sand, l'écrivaine prolixe du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle du romantisme. Donc elle est née à Paris en 1804. Alors si on voulait imiter Victor Hugo, son contemporain, qui lui était né en 1802, on pourrait dire « ce siècle avait 4 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, etc. etc. » Donc fille d'un officier de l'Empire, Maurice Dupin, issu de la grande bourgeoisie, et de Sophie Victoire de la Borde, elle d'origine au contraire très modeste, ancienne prostituée, Amandine Aurore Lucie Dupin a passé son enfance dans le domaine de Nohant, dans le Berry, élevée par son aristocratique et riche grand-mère paternelle. Marie-Aurore Dupin de Franqueuil, oui, c'est le nom de sa grand-mère paternelle, car elle, Aurore Dupin, a perdu son père à 4 ans, mort d'une chute de cheval. Sa mère, vivant sa vie à Paris, par souci financier, se désiste de sa tutelle en faveur de sa grand-mère paternelle. Dès lors, Aurore en conçoit un grand mépris pour l'argent et l'horreur pour la prostitution, même celle qu'elle appelle la prostitution conjugale. C'est une enfant imaginative et rêveuse qui, esselée, lit et écrit, se délecte des contes de fées de Madame d'Aulnoy et recherche la tendresse. Son éducation s'achève dans un couvent parisien pendant 3 ans, de 1817 à 1820, où elle improvise des scènes que jouent ses compagnes. Puis elle revient à Nohant. Là, elle s'éveille à la vie, porte des pantalons pour monter à cheval, sans souci de l'opinion publique locale, scandalisée par cette attitude de fille libre, déjà. Sous la pression de sa grand-mère, qui meurt en 1821, à 73 ans, elle a épousé à 18 ans à Paris le baron Casimir du Devant, dont elle a 2 enfants, Maurice en 1823 et Solange en 1828. Alors toute sa vie, elle préférera beaucoup Maurice, qu'elle adore, et aura de rudes démêlés au contraire avec sa fille. Mais s'ennuyant à la compagnie d'un mari qui ne partage pas ses goûts, c'est un mari qui préfère la chasse, elle se détache de lui rapidement. Elle entrevoit alors l'adultère comme un possible moyen de rompre la monotonie de son existence et mène ensuite une existence très libre, scandalisant à nouveau ses contemporains et contemporaines. Les hommes se succèdent alors tout au long de sa vie. Aurélien de Sèze, Jules Sandeau, Alfred de Musset, Frédéric Chopin, pour ne citer que les plus connus. Puis, à la fin de sa vie, ou dans la dernière partie, on va dire, Alexandre Manceau, en 1850. En 1833, après la rupture avec Jules Sandeau, dont on vient de parler, elle prend le pseudonyme de George Sand, George sans S. Voilà, c'est un nom essentiellement ambigu, bien sûr, qu'on peut prendre pour un nom d'homme. Et elle devient alors un personnage parisien connu, engagé auprès du mouvement républicain de l'époque. Femme de passions multiples et contradictoires, elle a été dépressive longtemps avant la maturité et la vieillesse apaisée. On dirait aujourd'hui qu'elle était sans doute bipolaire, c'est-à-dire qu'aux périodes de tristesse et d'abattement succédaient régulièrement des périodes d'exaltation et d'activité intense. Donc femme passionnée, passion du travail et passion du plaisir de l'amour, qu'elle nomme pudiquement un embrasement céleste, passion pour son fils Maurice et pour ses amants, passion des voyages et passion aussi pour son refuge de son domaine de Nohant, passion pour l'écriture, mais aussi passion pour la confection des confitures. Après chaque épreuve qu'elle qualifie de mortelle à cause des tourments et de douloureuses ruptures amoureuses, elle ressuscite parce qu'elle croit au bonheur. S'il y a des jours de froid et de fièvre, il y a aussi des jours de soleil et d'espérance, écrit-elle. Bref, elle est sujette à ce qu'au XIXe siècle, on appelait le spleen, mot anglais qui, dans l'acceptation du terme à cette époque du romantisme triomphant, veut dire mélancolie, ennui, tristesse, insatisfaction, déchirement intérieur. Plusieurs poésies de Charles Baudelaire portent ce titre et toute la première partie de ses poèmes regroupés sous le nom « Les fleurs du mal » s'appelle « Spleen et idéal ». Alors, les œuvres de George Sand. On distingue dans sa carrière quatre périodes correspondant à des phases de sa pensée et de ses sentiments, de sa vie orageuse dominée par des passions diverses et successives, comme on vient de le voir. Première période, de 1832 à 1840, son premier roman, Indiana, en 1832, le premier d'une longue série, est un grand succès. Toute la presse est unanime. L'héroïne Indiana incarne la distance entre le rêve et la réalité. Pour la femme idéale qu'elle représente, le malheur de la passion est que l'homme réel ne parvient pas à coïncider avec l'amant imaginaire, avec le prince charmant en quelque sorte. Ce sera aussi le malheur d'Emma Bovary, l'héroïne de Flaubert. George Sand exprime aussi dans ce roman son indignation contre l'oppression dont sont victimes les femmes. Elle défend là une cause importante à ses yeux, celle de la femme. « C'est celle de la moitié du genre humain », dit-elle. Elle veut lutter contre, j'ouvre les guillemets, « la barbarie des lois qui régissent encore l'existence de la femme dans le mariage ». Je ferme les guillemets. Indiana mérite d'être lue non seulement dans une perspective historique, comme le premier roman de George Sand, comme une œuvre emplie de la présence de l'histoire, des luttes de la femme contre la société, mais aussi comme un chef-d'œuvre de l'art romantique. Lélia, autre roman, paru en 1833, va dans le même sens, car cette héroïne ose tout haut ce que les femmes pensent tout bas, que les étreintes des mâles peuvent laisser de marbre celles qui les subissent. La sincérité de cette description de la frigidité va d'ailleurs provoquer un concert d'insultes envers George Sand. Ensuite, deuxième période, à partir de 1840, elle publie des romans d'inspiration socialiste. Elle se dit républicaine. Le compagnon du Tour de France en 1841, le meunier d'Angibault en 1845 ou d'inspiration mystique Consuelo en 1842. Elle est très prolixe, elle fait plusieurs romans dans la même année. Ensuite, en 1839, elle s'est installée à Nohant et son vif intérêt pour les paysans du Berry l'amène à concevoir des romans champêtres, sans doute les plus connus de son œuvre abondante, La Mare au Diable, François le Champy, 1847, La Petite Fadette, 1848, et le chef-d'œuvre du genre, Les Maîtres Sonneurs, en 1853. Dans ses romans, George Sand a le don de sentir et de traduire avec naturel la poésie des paysages familiers, des travaux des champs et des cœurs purs. C'est surtout ces romans-là qu'on étudie dans le secondaire. Quatrième période, en 1854, elle publie ses souvenirs dans « Histoire de ma vie ». Puis elle revient au roman romanesque avec, par exemple, « Les beaux messieurs du bois doré » ou « La Daniela », etc., etc. Désormais célèbre et apaisée, elle met en pratique par des actes de charité et de bienfaisance désintéressés son idéal humanitaire généreux. C'est ainsi que, de scandaleuse qu'elle était dans son ardente jeunesse à Nohant, elle devient la bonne dame de Nohant, vénérée par les paysans. Elle s'occupe de sa petite fille, vit désormais avec Alexandre Manceau, ami dévoué et fidèle pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'il meure de la tuberculose. Elle entretient une correspondance importante avec les écrivains de la nouvelle génération, Fromentin, Abou, Flaubert, Théophile Gautier. Elle a atteint ce qu'elle nomme son idéal de travail paisible et de vie champêtre. La fin de sa vie se déroule dans le cadre familial avec son fils, sa belle-fille et ses deux petites filles. Elle meurt d'une occlusion intestinale en 1876 et elle est inhumée au cimetière de Nohant. Alors, Victor Hugo, pendant son inhumation, ses obsèques, envoie un message qui débute ainsi: « Je pleure une morte et je salue une immortelle ». Alors, une citation d'elle. « J'ai un but, une tâche, disons le mot, une passion. Le métier d'écrire en est une violente et presque indestructible. » Je voudrais préciser qu'on peut visiter avec émotion et plaisir son domaine de Nohant, transformé en musée près de la Châtre, dans le département de l'Indre, numéro 36, sur la route transversale qui mène à la Bretagne. On y admire l'imposant théâtre de marionnettes de son fils Maurice, la vaste cuisine équipée avec ses cuivres étincelants où elle confectionnait ses confitures, et notamment la place où elle écrivait, une toute petite place, un recoin. Voilà, donc je vais citer mes sources peut-être, comme d'habitude. Tout d'abord, l'exposition « Notre matrimoine » du journal Clara Magazine de 2019, panneau numéro 7. La gare des Michards, 19e siècle, les grands auteurs du programme pour les classes de première, 1955, édition Bordas. La littérature française, les évolutions du 19e siècle, la gare des Michards, édition Bordas-Lafont, 1970. Jean Chalon, cher George Sand, grande biographie, édition Flammarion, 1991. Anthologie des poètes du 19e siècle par Édouard Ménial, classique Hachette, 1935. Et enfin, Indiana, de George Sand, folio classique, édition de Béatrice Didier chez Gallimard, 1984 et 2020. Donc, je conseille de lire Indiana, bien entendu. Voilà.
Merci Jacqueline pour ce beau portrait encore de femme de notre matrimoine, George Sand, que on retrouve évidemment sur notre site Fréquence Mistral, l'onglet de Digne-les-Bains. Bonne journée et puis oui. À mardi prochain.
À mardi prochain, bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.